Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle édition de La Route Inconnue. Je vous propose de retourner à Durcé où s'est déroulé dernièrement le printemps poétique de Durcé à l'initiative, comme chaque année depuis fort longtemps, de notre ami Jean-Claude Touzet, poète et chroniqueur sur La Route Inconnue. Lors du dernier printemps de Durcé, nous avons rencontré de nombreux poètes. Celui que je vous propose de vous faire découvrir aujourd'hui s'appelle Roland Nadeau. Il a une œuvre considérable derrière lui, une soixantaine de titres, des poèmes, mais aussi des romans. Et Roland Nadeau a également eu un engagement dans la vie civique tout à fait étonnant. Il a été maire de sa commune de Saint-Quentin-en-Yvelines pendant plus de 30 ans, je crois. Il a milité au sein du Parti socialiste pendant de nombreuses années. Il a été l'un des proches de Michel Rocard, une vie donc bien remplie. Mais comment Roland Nadeau a-t-il rencontré la poésie? Eh bien, il nous le dit sans plus tarder. Petite précision toutefois avant de lui céder la parole, vous retrouverez au cours de cette émission, comme tous les 15 jours, nos chroniqueurs, Claude Verset, Patrick Jockel et Cécile Guivarche.
Je l'ai rencontré grâce à l'école, avec de très bons maîtres qui m'ont fait aimer lire des textes, réciter des textes, des récitations, on disait à l'époque. C'est comme ça que j'ai découvert des poètes et que, à partir de la quatrième, je me suis mis à écrire parce que j'étais ébloui par ce langage, quoi. Charles d'Orléans, La Fontaine, c'était mes dieux pour moi. J'avais 12 ans, ouais. Et puis j'ai commencé à écrire là. Puis après, j'ai été encouragé par des profs. Puis ensuite, j'ai eu quelques bonnes rencontres, dont une exceptionnelle quand j'étais adolescent. J'étais en seconde avec Philippe Soupeau, qui a été mon premier papa en poésie.
Vous auriez pu commencer pire, hein, ça
Oui, mais ça c'est sûr, parce que en plus, Philippe m'avait pris vraiment sous son aile, il m'a fait vraiment progresser, parce que quand on a 14 ans, on écrit des trucs qui ne sont pas forcément très originaux. Et il m'a fait ensuite rencontrer d'autres personnes, dont André Breton, bien sûr. Et puis, j'ai cheminé comme ça. D'autres rencontres importantes, comme Pierre Bouju, le fondateur de La Tour de Feu, dont j'ai été longtemps un des collaborateurs. C'est là que j'ai publié, d'ailleurs, mes premiers poèmes. Parce qu'avant, on avait fait une revue de lycée, donc je publiais dedans, quoi. Mais mes premiers poèmes dans une revue sérieuse, c'était dans La Tour de Feu. Et puis, après, j'ai rencontré aussi Pierre Léris, le grand traducteur, hein, pas Michel Léris, Pierre Léris, grand traducteur notamment de poètes. C'est lui qui a le premier traduit Kenneth White en France, par exemple. Et ces gens-là, donc, ont été sur mon chemin des personnes qui m'ont permis de trouver peu à peu mon langage, même si mon langage, heureusement, je l'espère, en tout cas, évolue, n'est pas le même à chaque fois.
Il est singulier, et puis il est singulier, c'est-à-dire que vous avez une voix singulière, mais il est aussi pluriel parce que la voix peut changer selon le livre. Moi, je vous ai interviewé pour les grandes inventions de la préhistoire, par exemple. Pour un autre livre, ça va être tout à fait différent.
Oui, tout à fait. Il y a une raison simple à ça, c'est que je n'aime pas me répéter. Dans ma vie aussi, d'ailleurs, ce qui pose parfois des problèmes. Mais j'aime pas refaire la même chose, quoi. Ni épuiser un filon. Parce que je pense que un des seuls intérêts dans l'art, c'est la création, quoi. Ça ne veut pas dire forcément l'originalité à tout prix, parce que d'abord, je sais pas très bien ce que ça veut dire, l'originalité à tout prix, sauf les chapeaux à plumes, et avec des boucles d'oreilles en forme de chaussures ou tout ce que vous voudrez, mais par contre, oui, avoir un langage qu'on puisse reconnaître et qui évolue, parce que selon les bouquins, que ce soit en poésie ou dans les romans ou même dans les pamphlets ou les contes pour enfants ou au théâtre, parce que j'ai écrit aussi pour le théâtre, j'aime bien faire autre chose que ce que j'ai fait la veille.
C'est une biographie qui est extrêmement importante. Il y a combien d'ouvrages aujourd'hui ?
Alors, sous mon nom, parce que j'ai publié aussi sous pseudonyme, notamment des polars politiques. Mais sous mon nom, je pense qu'on doit être à, je sais pas, entre 65 et 70 par là.
Donc c'est réellement une œuvre, hein. Vous en avez conscience quand même ?
Ah, je ne sais pas si c'est une œuvre, ça c'est l'avenir qui le dira éventuellement. Mais en tout cas, oui, j'ai écrit beaucoup. J'écris moins aujourd'hui d'ailleurs, mais j'ai écrit beaucoup.
Moi je voudrais qu'on revienne peut-être encore plus tôt. Il y a un texte qui m'avait bouleversé, mais que j'ai entendu par votre voix sur le site d'Alain Boudet, La Toile de Lin, qui parlait des gens qui partaient pour les battes d'Af, qui passaient sous votre fenêtre. Vous avez vécu une enfance dans un milieu très particulier. Est-ce que c'est trop vous demander que de dévoiler un peu quel a été le visage de votre enfance ?
Ben, j'ai écrit un bouquin complet là-dessus, aux éditions Henri, qui s'appelle « Un cadastre d'enfance » et quelques-unes de ses parcelles, que j'ai écrit très très vite, mais que j'ai mis très très longtemps à écrire, parce que ça faisait remonter vraiment ma petite enfance, et on est tous fondés sur la petite enfance. Pour simplifier, je dirais que je viens d'un milieu que, à l'époque, on n'appelait pas « Carmonde », le terme n'existait pas, mais c'était proche de ça. Milieu très compliqué, et d'abord pour la question du logement, ce qui fait que je voue à l'abbé Pierre une immense admiration qui date de mon enfance. J'espère bien d'ailleurs qu'il passera au Panthéon un de ces jours prochains pour son centenaire. Je me suis laissé dire que c'était pas impossible. Et voilà, dans cette enfance difficile, dans une famille très compliquée, j'ai eu un frère qui s'est suicidé aussi. Il y a eu des moments merveilleux, par exemple la découverte de l'eau chaude au robinet. Quand je suis entré en sixième, j'ai découvert qu'il y avait de l'eau chaude au robinet dans les HLM. C'est pour ça que je voue une admiration à ceux qui ont... À l'époque, c'était pas les HLM, c'était les HBM, les habitations à bon marché. Et mes parents avaient mis des années à trouver un logement. J'ai vécu dans une écurie, enfin, etc. etc. J'ai raconté ça, mais sous forme poétique, ce qui est quand même un peu mieux. Et c'est vrai qu'à une certaine époque...
Vous avez connu les bidonvilles, autant le dire, c'est ça ?
Oui, voilà, peut le dire oui, parce que j'ai habité sous des tôles et entre des parpaings, quoi. Enfin, on était d'ailleurs plusieurs familles dans la même baraque, comme on disait. Hein. Donc oui, c'était après-guerre et puis dans un milieu difficile, quoi. Hein. D'où je viens, voilà.
Ce qui a sans doute conditionné aussi vos choix politiques, vos engagements et vos engagements, attention... pas dans l'abstraction, pas dans l'abstrait, mais des engagements qui vous ont conduit à être maire de votre commune dans les Yvelines, je crois, pendant de nombreuses années.
Oui, alors mes engagements, ils sont liés à deux choses, à l'école publique, qui m'a beaucoup aidé, et à un prêtre qui s'appelle, j'espère qu'il est vivant encore, s'appelait l'abbé Morin, ça s'invente pas, hein, c'était vraiment son nom, et j'ai été pris en charge par à travers des personnes, de façon sont tout à fait admirables, et ça a conditionné la suite de ma vie. Je suis devenu très vite militant de l'enfance dans un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle les Francas. Et puis ça m'a mené au syndicalisme, ça m'a mené... j'ai failli entrer au séminaire et finalement je suis entré à l'école normale d'instituteurs.
Vous avez la double culture, les Francas et puis aussi l'église finalement.
Et bah oui, aujourd'hui jour des rameaux, j'ai fait la lecture pas loin d'ici. Et puis mon engagement était celui donc d'abord pour l'enfance et à travers l'enfance pour une société plus juste. Et ça m'a conduit à prendre des responsabilités politiques. Je suis devenu maire adjoint puis maire de ma commune à Guyancourt. Puis j'ai construit cette ville qui, quand je suis arrivé, elle avait 1000 habitants. Là, non, aujourd'hui 32 000. J'étais un des bâtisseurs de la ville nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines que j'ai vice-présidé et présidé et qui est aujourd'hui 250 000 visants. Et j'étais conseiller général des Yvelines aussi pendant un temps. Mais j'ai abandonné mes mandats successivement volontairement parce que il faut pas s'accrocher à son siège, mais en même temps c'est une de mes fiertés, c'est vrai, d'avoir bâti une ville où on me dit qu'on se sent plutôt bien et qu'il y a du logement pour tout le monde.
C'est extrêmement rare, quand même beaucoup de poètes, on a beau dire, mais bâtissent plutôt dans les nuages hein, que dans la, que dans dans la pierre. Voilà, et ça a été votre cas, vous, quoi.
Oui, ben, j'ai fait mienne cette devise, un vers d'Aimé Césaire, qui est autre grand, enfin, lui, grand poète et grand bâtisseur, maire de Fort-de-France. Bâtir un poème et bâtir une ville, dit-il, c'est un peu la même chose.
Et vous avez eu le temps de bâtir une œuvre aussi, c'est étonnant quand même, hein, d'avoir ce parcours, hein, avoir été pendant longtemps maire de sa ville, bâtir aussi une œuvre, être à l'origine d'une ville nouvelle, c'est... Vous aviez des journées de combien d'heures ?
J'avais surtout des nuits de très peu d'heures. Pendant des années, j'ai dormi, allez, on va dire, sans exagérer, 3 ou 4 heures, pas plus. Ça se paye aujourd'hui, mais bon, je ne le regrette pas. Hein. Mais en même temps, pour être honnête, si je n'avais pas eu la poésie et l'écriture de façon plus générale, je pense que je n'aurais pas tenu dans le monde politique au niveau où je suis arrivé, puisque j'ai travaillé aussi auprès de Michel Rocard quand il était Premier ministre. J'ai eu des responsabilités nationales, mais je les ai vite abandonnées parce que j'étais passionné par la construction de ma ville, de la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui me prenait l'essentiel de mon temps, quoi. Mais franchement, si j'avais pas eu la poésie, je crois que je n'aurais pas résisté. C'est ma colonne vertébrale.
Votre famille, c'est la seconde gauche qu'on appelait la deuxième gauche, ça ?
Alors, oui, c'est ce que disait politiquement. Ben, moi, j'ai adhéré au PSU en mai 68. J'étais tout jeune prof, mais perdu loin de Paris. Et j'ai suivi Michel Rocard parce que je suis quelqu'un de fidèle, malgré des désaccords de temps en temps. Et c'est vrai que sa mort, par exemple, m'a beaucoup touché. Et puis, il y a eu ce retour de la foi qui a compté pour moi de façon considérable.
Retour, c'est-à-dire que vous avez connu la foi dans l'enfance ou dans l'adolescence et vous l'avez abandonnée. Racontez-nous un petit peu ce parcours.
Eh bien, moi, j'étais dans une famille dont les hommes étaient tous ou anarchistes ou communistes. Mon père d'état civil en tout cas, était un anarchiste, assez virulent. Et donc, par exemple, je le raconte dans un bouquin, quand j'ai fait ma communion, mon père a refusé de venir manger à la maison, pour vous donner une idée. Donc c'était quand même assez dur. Je suis devenu enfant de cœur, et puis arrivé à l'adolescence, là je me suis retrouvé dans un milieu ultra laïque. Il y avait la bataille école privée, école publique, qui était à l'époque assez dominante. J'aimais pas beaucoup ce qui a changé aujourd'hui, heureusement, les ordres de l'église, les grands tralala, les grands vêtements, les grandes cérémonies, qui me paraissaient assez éloignées de ce que la lecture de l'évangile que je faisais. Puis j'ai été entraîné comme ça au divorce, à la séparation. Et puis je suis revenu, là aussi, à cause de différentes rencontres. La première rencontre, ça a été celle de Thérèse de Lisieux, enfin Thérèse d'Alençon, puisque ici nous sommes dans l'Orne. Et ça m'a beaucoup marqué. J'avais une de mes secrétaires qui était de la famille. Je ne vais pas raconter tout le détail, mais voilà. Et donc, quand le père Brottier, a été est devenu bien heureux, elle m'a filé des bouquins et je suis tombé sur cette sainte absolument extraordinaire, qui correspondait vraiment à ce que je ressentais. À partir de là, j'avais toujours eu de bons rapports quand même, comme élu, comme maire, avec les prêtres, les curés de mes paroisses, puisque ma ville, à l'époque, il n'y en avait qu'une, mais maintenant, il y a plusieurs paroisses. Ça me change d'ici, dans la campagne. Et certains d'entre eux sont vraiment devenus des copains, des amis. Et je me souviens d'un des derniers qui est venu, lorsque je suis revenu dans la maison, comme je dis, revenu à la maison. Et il est venu lui-même dans mon appartement, dans mon bureau, pour me donner l'absolution, en tête à tête, avant que je retourne pour la première fois communier. Et il m'a dit, tu sais Roland, ça fait 40 ans que tu es sur en dehors de la gare, et sur le quai plutôt, et tu sais, il y a plein de trains qui sont passés. Et il avait raison.
Est-ce que la vie spirituelle et la vie poétique sont intimement liées pour vous ? Je vais vous poser une question qui est sans doute indiscrète, mais tant pis, je me lance. Est-ce que, avant de commencer une séance d'écriture par exemple, eh bien vous allez faire une prière?
Alors d'abord, il n'y a pas de question indiscrète, il n'y a que les réponses qui le sont. Mais je prie tous les jours, hein, et à tout moment. J'avais même à un moment envisagé de diriger une collection chez un éditeur qui se serait appelé Prier en. prier en faisant la vaisselle, prier en jardinant, prier en étant interviewé, etc. etc. Donc je ne prie pas particulièrement au moment d'écrire, mais en général je travaille très tard le soir, ou juste avant dîner, ou très tôt le matin, ça dépend. Mais la prière est là, quoi. Je suis, j'écris sous la croix et sous le visage de Thérèse.
Est-ce qu'en écrivant, est-ce que l'écriture, pour ce qui vous concerne, c'est une quête du divin, ou c'est ce que vous allez quérir dans votre vie spirituelle que vous ramenez aux hommes via l'écriture, par exemple?
Alors, je crois que c'est comme la poésie engagée, si vous voulez. Si c'est mettre la poésie au service d'une cause, c'est une erreur, fondamentalement. Mais en même temps, la vie spirituelle et la vie poétique sont évidemment très proches, de la même façon que la poésie est très proche de la danse, de la musique, de la peinture, de toute une série d'arts. Donc il y a une interpénétration entre les deux. J'ai écrit plusieurs livres depuis mon retour à la maison, dont un livre qui s'appelle précisément « Prière d'un recommençant ». Tout cela se mêle et dans une même quête de beauté, d'amour et de justice.
Je vous pose une dernière question, et puis après je vous libère. Qu'est-ce que vous inspire l'élection présidentielle de cette année précisément ?
Alors l'élection présidentielle de cette année, moi, pardonnez-moi de me parler comme ça, trivialement, mais j'en suis sur le cul. Parce que j'ai jamais vu ça. Jamais vu une campagne électorale aussi minable. Tant de choses sordide, désagréable, loin de l'idée que je me fais de la démocratie, loin de l'idée que je me fais d'un homme politique, et avec des batailles de seconde zone, un irrespect de la France et de la population française. Je mets pas tout le monde dans le même sac, hein. Mais quand même, cette ambiance est pourrie. Alors que regardez, aujourd'hui, on a un soleil magnifique, on est le jour des rameaux. J'aimerais bien que la campagne prenne cette tournure plutôt qu'une autre.
Quant à la tournure que la suite des événements électoraux a pris, je vous en laisse seul juge. Je vous propose d'écouter maintenant un peu de musique. Après quoi, je vous lirai quelques passages d'un ouvrage de Roland Nadeau publié aux éditions Henri d'un bocage l'autre. Mais tout d'abord, du jazz. D'un bocage l'autre, Roland Nadeau. Archipel du bocage. C'est mon île, l'archipel de mes yeux. Tous ces prés entre haies vives et ces champs où marcher, c'est revivre. Parce que la boue colle à la vie comme cette herbe aux pattes des bêtes entre ruisseaux lourds et prés mûrs. C'est mon île. Je n'y mourrai pas. On ne meurt jamais là où c'est déjà revivre. Tous les ressuscités vous le diront. mon île, mon bocage, l'archipel de ma vie, mes îles vertes sous le vent, ma pluie, j'en suis bête comme un amoureux. Corbeau. Trois corbeaux sur arbre mort. La vie parfois n'est qu'un symbole. C'est aussi que mourir n'est pas une affaire ou une affaire de marché noir. Passer en fraude de l'autre côté, le meilleur de soi, le vivace. Et si trois corbeaux font le guet contre l'alerte des limaces, c'est bien que la pourriture prend toujours par la chair. C'est que la vie est bien plus qu'un symbole. La vie. Bocage. Parce qu'ici la vie a un sens, dormir n'est pas pourrir. Ô mon bocage. Croix. Tous les chemins se croisent. Il y a des croix partout. Jésus n'en finit pas d'agoniser au carrefour. Prier, c'est se croiser les pas. Comment oses-tu marcher, fils d'homme, quand Jésus meurt à chaque croix? Toute cette violence dans le bocage, au croisé des chemins. Souviens-toi, tous les chemins mènent à Rome. Tous les chemins mènent à moi. Épreuve. Seul. Et seul dans la solitude du solitaire, avec rien. Rien à partager parce que rien ni personne ne peut donner ou recevoir un peu du poids de vivre qui appartient à autrui. Un peu de poids pour être autre chose qu'un accident vivant. Le temps que la mémoire apprenne à déjà t'oublier, seul et irremplaçable dans ta nudité d'homme. Et l'amour est une épreuve, où reconnaître en seul partage l'irrécusable solitude et de l'autre et de soi. Saison. Le dérisoire du poème et sa force. Des mots se disent, s'exposent, digital en bord de fossé. Cueillir, c'est cueillir le poison, et puis un coup de faux et plus rien qu'un fossé propre et nu, dérincé, où l'eau coulera, trop pleine en automne. La saison du poème. Fossé. Que dire encore? Au bout du temps, la lassitude appelle le silence. À la surface, les images crèvent. À la surface, de rien. Car c'est d'elle-même que la parole se décompose. Prisme et rien. Surface neutre, profondeur zéro. Même pas le désir du suicide. Même pas dormir, même pas mourir, être là ou ailleurs. Quelle importance! Même pas le désespoir. Larve de lassitude, sans dégoût, sans haine, sans violence, sans sursaut. Pourri du dedans, écroulé, à crever dans un fossé comme mon premier chien. Boue. L'eau charrie l'eau. Boueuse. On enfonce dans les champs. Sur, les maïs seront semés en retard. Les paysans auront gagné une raison de se plaindre. Jusqu'au moment où la barque de Ré, traversant le ciel mûr, délivrera une récolte comme jamais. Mais alors, personne pour remercier le soleil. Moi, je marche, j'enfonce dans la boue des prés, je siffle mon chien, Jérémy, dans les chemins creux. J'ai une telle joie de vivre, j'ai un si grand désir d'aimer, que c'est comme l'égoïsme, pire, la mort d'autrui en moi et son amour. Boueuse, l'eau charrie l'eau boueuse, la rivière déborde. Enfoncé jusqu'aux genoux, les bêtes meuglent. Un paysan vient, une botte de foin sur l'épaule. J'ai envie de me jeter bras en croix, bouche ouverte, dans cette boue qui dévale les ornières, et mourir de boire la terre, d'aimer la vie. Mais la présence de l'autre me rend sage. Satan vit. Vache. Si j'étais vraiment sûr de mourir aussi vite qu'il est prévu, j'irais plus souvent parler aux vaches dans les prés. Elles qui finiront beefsteak doivent avoir une idée sur la mort. Une bonne idée. Et sur la résurrection, donc. Au lieu de cela, je paresse. Je travaille comme un fou, des 15 heures par jour, et je n'ai même plus le temps de marcher par les chemins creux. Je dois mourir sans m'en rendre compte. Mais un soir, je partirai. Pour la promenade, pour les oiseaux dans les haies. Et tout comme mon premier chien, je ne reviendrai pas. De moi, on ne retrouvera rien que ce poème antidaté. Et moi-même, je ne sais où je serai. Odeur. L'odeur de la mort. Une formule. Moi, j'ai senti l'odeur de la mort. Je ne parle pas de l'odeur d'un mort, animal, homme, fleur pourrie. Je parle de l'odeur de la mort, comme une substance, et je l'ai sentie. Depuis, elle s'accroche à moi, comme la fumée des cigarettes au matin, dans les cheveux, sur les vêtements, cette odeur de cendrier froid. Beaucoup ne la sentent pas, c'est comme le fraîchin. Enfant, j'étais le seul de la famille à sentir le fraîchin dans une assiette, dans un verre, ou sur un couteau qui avait coupé l'œuf ou du poisson. On m'accusait de faire des manières. Je ne fais de manière en sentant l'odeur de la mort. Ici, maintenant, dans cette pièce aérée, et même dans le jardin, près des lys. Il n'y a qu'en me promenant dans les chemins creux du bocage, que je ne sens plus cette odeur. Je marche beaucoup. Marche. Tu cries, c'est silence. Tu marches, c'est désert. Mais ta souffrance n'intéresse personne, et tes pas ne résonnent qu'en toi. Mort, tu existeras, peut-être. Vivant, tu n'es rien que toi. Ils n'aiment pas qu'on vive à hauteur de soi. Ils n'aiment pas qu'on s'aime et qu'on croit en soi. Mort, tu existeras. Ne crie pas maintenant. Respecte leur silence et ne marche pas trop vite dans leur désert. Dis-toi que tu leur ressembles un peu et que tu commences enfin à te mépriser aussi, mais sans haine. Et peut-être même avec amour. Mouche crevée. Les mouches crevées. Des centaines. Et ça craque. Sous les pieds. Fouloir à cadavre. Au commencement de l'hiver, la maison vide leur a servi de refuge, je suppose. J'ouvre un livre. 14 mouches en tombent. Ah, il y en a encore une qui vivote, qui tremblote, se débat. Crac, crevé, cadavre. C'est noir sur le parquet et ça craque et ça bourdonne, hystériquement, oui, dans les huisseries disjointes. Les mouches crevées, comme à la télévision les hommes. Pèlerin. Le pèlerin chemine, son sac de soleil sur le dos. Noir le matin à naître, et déjà noir le jour passé. Non, vraiment, mourir n'a pas l'importance qu'on lui prête, puisque c'est déjà commencé. Maintenant, c'est marcher qui compte. Calvaire. Chaque pas que je marche résonne dans ma tête, et la douleur cogne à ma nuque, pas à pas, comme autrefois, du temps que ce souvenir n'avait aucun sens, parce que la jeunesse ne se souvient pas, elle s'invente. Mais aujourd'hui, je me souviens de ce rien que je fus, et que je demeure dans la douleur de moi, dans ma nuque, dans ma tête, où souffrir n'est pas espérance ni invention, mais douleur en marche, à vif vers la mort. Et chaque pas que je marche, c'est un peu Dieu qui meurt en moi, car je marche en douleur sur la croix, veuve de mon enfance, et ma tête éclate de mes pas et je ne comprends pas. Sans doute que je m'aime enfin. Vivre et carrefour avec son calvaire. Et ce dernier poème, Fumée. Mon poème, le souffle et la respiration. Presque minuit, je me retrouve. Depuis 10 jours, pas une nuit, pas un jour, rien que mon temps haché, ma douleur, drogue parmi les autres à heurter leur conscience, à m'étourdir de vanité, d'acte. Et puis ce soir, mon poème. Ici, chaleur de juin, cette soirée où dormir un peu, enfin, et rêver. Cette nuit inutile, gratuite, totalement dépourvu d'acte social. Mon poème, juste respirer, mesurer mon souffle, comme si je fumais ma vie. Voilà, c'était quelques extraits de ce très beau livre de Roland Nadeau, D'un bocage l'autre, coédité par les Écrits du Nord et les éditions Henri. Voilà, on écoute un peu de musique. Et c'est ensuite la chronique mensuelle de Claude Versé. Ah, le toucher inimitable et le swing du regretté Henri Crolla. C'était un morceau intitulé « Aux guitares ». Eh bien, chose promise, chose due, je vous laisse dans les mains expertes de Claude Versé, dont c'est la chronique mensuelle.
Bonjour à tous. Bonjour Christophe. Je le promettais il y a un mois, lors de ma dernière chronique, Eh bien, nous y voici. Examinons aujourd'hui un nouveau monde et ses 1500 pages nécessaires à Yves Dimano et Isabelle Garon pour dresser le panorama des écritures de poésie en France entre 1960 et 2010. Cet ouvrage, hors norme, qui paraît aux éditions Flammarion, fait événement. Et ce, malgré les réserves et les objections qu'il n'a manqué de susciter. Et oui, songez qu'il évoque une période sensible dont nous avons été, mais nous sommes encore, acteurs et témoins. Ce qui ne peut manquer de peser sur nos capacités d'appréciation et de froisser certaines susceptibilités. Quoi qu'il en soit, un nouveau monde, à la fois histoire et anthologie pour cette période de 1960-2010, de la poésie en France, précision importante, car on ne lui reprochera pas, par exemple, de ne pas être l'histoire de la poésie de langue française. L'un et l'autre ne se recoupent pas. Cet ouvrage, donc, est voué à coup sûr à devenir objet de référence. C'est un instrument unique, indispensable de connaissance, pour les étudiants et les professeurs, bien sûr, mais pour tout autre amoureux et curieux de la poésie. On devrait le retrouver dans toute bibliothèque. Et l'on souscrira au jugement du poète Ivar Schwavard qui m'écrivait « Ce livre est énorme, représente une somme de travail démente, mais bien sûr, il y a un risque réel qu'on n'y voit d'abord que des manques. » Et on y a vu des manques. De fait, quand même, cet ouvrage est énorme. Car quiconque a observé d'un peu près, avec un rien de sérieux, le paysage poétique d'aujourd'hui, on vient forcément à constater la plus extrême confusion. Ben, on dira par exemple que les écoles littéraires ou artistiques, ont disparu. De même que les mouvements en isme du type surréalisme qui naquèrent encore le structurait et rassurait les amateurs d'ordre et de pédagogie. On dira que les poètes, à l'instar par ailleurs des artistes d'autres disciplines, inventent leurs propres règles. Ce qui a conduit à conclure que dresser un panorama ordonné de la poésie actuelle était une tâche insurmontable. Qu'on pouvait tout juste au mieux proposer des anthologies où chacun des participants était renvoyé à sa propre singularité. Et de fait, personne et nulle publication ne s'y sont risqués depuis l'Urette. Et voilà que surgit l'inattendu, l'irréalisable, mais réalisé bel et bien, monumental, un nouveau monde qu'il convient, selon ses concepteur, d'examiner dans l'état d'esprit du voyageur, là je cite, du voyageur abordant une contrée dont il ignore à peu près tout, mais dont il cherche à percer l'énigme derrière sa lumière apparente, ses ombres et ses beautés cachées. Concevoir le mélange d'étonnement, de patience et d'inquiétude qui le gagne à mesure qu'il avance. Devant lui commence un paysage dont il ne sait rien, de collines et de cours d'eau qui n'ont pas encore été nommés. Ben, j'arrête ici de citer les auteurs dont on a parfois l'impression quand même qu'ils croient que leur lecteur débarque de la Lune. Quelques mots justement sur ces auteurs. Sur Yves Dimano en particulier, qui a des arguments des plus solides à faire valoir pour mener à bien ce travail. Rappelons qu'il dirige depuis 1994 la collection Poésie chez Flammarion. Collection à laquelle nous devons quelques-unes de nos belles émotions de lecteurs. Ben, nommons Jean-Luc Cazergue, Laurent Albarracin, Ariane Dreyfus, Chantal Dupuis-Dunier. Et l'on portera au crédit d'Yves Mano l'attention peu commune qu'il porte sur l'effervescence créatrice à l'œuvre dans les petites structures éditoriales. C'est ainsi qu'il a su saisir de longue date l'importance d'une démarche comme celle d'Ivar Schwavard et de sa revue, Le Jardin Ouvrier, auquel il a consacré une anthologie désormais fameuse. Parmi d'autres anthologies marquantes qui scandent au cours des années son travail éditorial de directeur de collection, et qui nous ont permis, de loin en loin, de faire le point. Si bien qu'un nouveau monde nous apparaît, non pas comme la révélation d'un monde inconnu, comme il semblerait qu'aimeraient le dire leurs auteurs, mais comme la prolongation, la culmination d'un travail de longue haleine mené par les éditions Flammarion et pour lequel Yves Dimano s'est associé significativement à une auteure Flammarion, poète elle aussi. Et pour résumer l'entreprise, on pourrait au fond la décrire comme l'ascension du mont Poésie par la voie Flammarion, car telle est, à mon avis, l'une des limites de cet ouvrage. Au final, ce n'est pas un nouveau monde qui surgit, puisque ce monde est bel et bien le nôtre, autant que celui des auteurs de l'ouvrage. Mais de son histoire, il nous est présenté un nouveau récit, ce qui est déjà beaucoup. Elle ne s'y exprime non pas un point de vue objectif, comme les auteurs aimeraient qu'on le croie, mais le point de vue dominant. Bon, j'en ai assez dit pour cette chronique. Je développerai davantage dans la prochaine livraison de la revue Des Charges, qui paraîtra en juin prochain. Inutile d'ajouter qu'Un nouveau monde, d'Yves Dimano et Isabelle Garon, paru aux éditions Flammarion, est disponible dans toutes les boutiques qui méritent le titre de librairie. Et je vous donne rendez-vous le mois prochain.
Voilà, 1500 pages s'offrent à votre curiosité avec ce nouveau monde. Tout de suite, eh bien, je vous propose d'aller à Nantes où nous attend Cécile Guivarch, poète bien connue qui vient d'obtenir un prix d'ailleurs en Bretagne, on en reparlera sans doute. Et Cécile Guivarch qui est par ailleurs animatrice d'un site internet ressource très important aujourd'hui dans la paysage poétique français contemporain, c'est Terraciel. Voilà, voyons ce que Cécile va nous sortir de sa musette ce mois-ci.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour cette nouvelle édition, je voulais vous parler de deux livres parus aux éditions Lanskin. Le premier, c'est un livre de Joël Bastard qui s'appelle « Une cuisine en Bretagne ». Donc, retour au pays de son père en Bretagne pour Joël Bastard, où le passé et le présent se côtoient. Ils ont les genoux contre le zinc et retrouvent les discussions d'hier et d'aujourd'hui. Il est construit, ce livre, par fragments, des paragraphes, des notes qui donnent chaque fois un petit tableau, un portrait, une histoire, une pensée. Il y a beaucoup de tendresse, de l'humour, des réflexions sur la langue et sur l'écriture. La langue est relativement présente dans Une cuisine en Bretagne. C'est la langue des phrases et des mots, la langue du pays ou la langue étrangère, celle que l'on connaît ou que l'on ne connaît pas, et l'attachement apporté à cette langue, donc avec le breton très important. Ce qui nous manque à tous, c'est d'être en Bretagne et de parler chinois au vent qui passe. Une atmosphère se dégage au fil des pages, par petites touches, la Bretagne est évoquée, paysages et personnages. Un voyage et en deçà la mort du père, le souvenir comme un hommage, une façon de rendre voix. « Tu ne dis rien, toujours rien et je parle pour toi », écrit Joël Bastard. Il fait donc un retour sur ses origines, jusqu'à ressentir le pays, jusqu'à l'os creusé profond en terre pour qu'une phrase s'élève. « J'ai l'âge de la disparition de mon père et je marche vers le lieu de sa naissance », essayant de ne plus bégayer dans la langue, comme ses ancêtres passaient du breton au français. Joël Bastard nourrit sa réflexion autour de l'écriture, du bonheur d'écrire et d'être écrivain, contre son gré, et du livre qui se construit. Il écrit par exemple cette petite phrase « J'écoute ma voix qui répète ce que je viens d'écrire. » En réalité, lorsque nous écrivons, l'écriture est devant. Je reprendrai ces notes dans le futur et lirai des écrits d'un autre. Je laisse venir la nuit, occuper la page, comme elle vient en forêt. Le passage du temps dans une cuisine en Bretagne est présent. Il écrit par exemple « Je n'ose penser à mon enfance, elle est enfermée en moi et fait pourtant mes yeux. » Le lecteur ne s'ennuie jamais avec Joël Bastard, qui donne beaucoup d'images à sa poésie. Il évoque aussi la paix. C'est la paix qui donne des ailes aux oiseaux et du jaune au soleil, écrit-il. Et s'il n'était jamais venu en Bretagne sur les traces de son père, est-ce qu'il n'aurait pas usé du pouvoir de l'écriture pour faire remonter les mots d'hier, infusés dans ceux d'aujourd'hui? Donc voilà, c'était pour le livre de Joël Bastard, Une cuisine en Bretagne. Le second livre, donc toujours aux éditions Lanskin, est de Soren Berlotier. Il s'intitule Au bord. Au bord, c'est donner voix à celle, à celui, à ceux pour qui il est devenu impossible à dire tout ce qu'il serait comme on voudrait. Quand il ne reste que les yeux, la pensée et un corps malade, proche de la faim. Soren Berlotier évoque ce bord, au bord d'un lit, au bord d'une vie, au bord de la mort, et comment, après avoir basculé, il reste le souvenir un peu vieilli. La voix, la pensée, tous les sens sont en éveil dans ce test où l'émotion guide l'écriture. Au bord est rythmé par des vers qui prennent le temps de dire le proche malade et ainsi l'espoir. Des vers qui permettent d'aller au plus net des émotions ou de dire le manque de parole. Elle écrit « La prose ne s'oppose pas au poème. Continuez vers son bord le plus net. » Paroles, phrases, mots s'assemblent et parlent du silence. Dans ce silence, le poème s'écrit, retient le temps. L'atmosphère de l'hôpital est suggérée, mais par petites touches. L'écriture est originale, la phrase s'invente sans cesse. Quelque chose se déchire, s'en va, se vit si intensément que les phrases donnent parfois l'impression de se bousculer dans la langue. Prête à rattraper qui s'échapperait. Ainsi, tu meurs et je dis autre chose. Comme une façon de retenir celui qui s'en va. Puis vient le corps sans la disparition, le temps du souvenir avec l'enfance évoquée. Les photos et petit à petit, par la fenêtre, la scène de ta mort a vieilli. Ce livre, sur la mort d'un proche, ne tombe pas dans le pathos. Soren Berlotier manie très bien l'art de l'évocation. Le livre va par fragments, prend le temps de laisser s'installer phrases et silence, passer d'un bord à l'autre, et pour ceux qui restent, continuer. Voilà, c'était donc Au bord de Soren Berlotier, paru également aux éditions Lanskin. Je vous remercie beaucoup, je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Et oui, c'était encore Henri Crolla avec Léon Lalune. Il ne me reste plus qu'à vous tirer ma révérence. Je vous laisse en compagnie de Patrick Jokel, poète, auteur également de romans et de livres pour enfants. C'est le moment de sa chronique mensuelle. Excellente fin de journée à toutes et à tous. On se retrouve dans 15 jours pour une route inconnue qui sera dédiée à Ivar Tuffel. Ivar Tuffel, poète, éditeur, c'est lui le créateur, le patron des éditions Gros Texte, une figure attachante que vous pourrez découvrir donc dans 15 jours. Excellente fin de journée à toutes et à tous.
Eh bien, bonjour. Un livre, aujourd'hui, l'édition Gros Texte, dans les Alpes de Haute-Provence, une année de parution 2016, un livre à deux voix, donc quatre mains, celle d'Hélène de Savray et celle de Thierry Roquet, entre Luberon et Malakoff, c'est d'ailleurs le titre du livre, Luberon-Malakoff. Sous-titre, chronique électronique, on sait à quoi s'attendre, correspondance de poètes, de poèmes, jeux, amitié, Sans doute un peu de tout cela et bien d'autres choses encore dont chaque lecteur goûtera les subtiles différences. De septembre 14 à mai 2015, on est dans cette conversation électronique, la touche en voix de temps en temps, en liberté, avec en toile de fond le quotidien de Provence ou parisien, quotidien de pays, les attentats contre Charlie Hebdo, des messages d'amitié, des poèmes échangés au jour le jour où chacun puisera ses propres perles, une démarche à proposer à d'autres poètes, à proposer en atelier d'écriture. Quelques poèmes pris comme ceci, un peu au hasard, de Hélène Dassavré pour commencer. La nuit, à notre échelle immortelle, de l'âge est écrit. Je reviens d'une chevauchée dans les secrets du vent. Il dit que nous sommes fiers, mais bien obéissants. J'ai entamé la nuit au bas de l'échelle, son ivresse et ses rêves, un blues à la radio, la pluie sur la prairie. Je ne parierais pas que les hommes et les femmes parfois savent s'aimer. C'est l'intention qui compte, demain fera ce qu'il voudra. Nous sommes ici, d'allure, de matière et d'eau composée, un éclair de lumière partageant un instant de magie, volatile, partageant notre goût pour l'ivresse, un œil sur l'issue de secours. Un poème de Thierry Roquet également. Il s'en est passé bien des choses depuis notre séjour à la Bastidonne. Tu as déménagé, mis en location ta maison, écrit les premières pages d'un roman. Peut-être as-tu installé ton nouveau lit à l'intérieur du livre afin d'être au plus près de l'action des amours à venir. Saïda a repris le boulot ce matin après 2 ans d'absence. Elle est partie tellement tôt que je n'ai pu ni la voir ni l'embrasser. Je m'y prendrai mieux la prochaine fois. J'ai retrouvé l'usage du questionnaire, la parole qui répète inlassablement la force de conviction à l'adresse de celles et de ceux qui ne veulent pas répondre, doutant de l'utilité réelle d'un tel questionnaire, doutant de l'efficacité des pouvoirs publics. Mais on a des arguments bien ficelés qu'on enrobe d'une voix ferme et assurée. Ça ne marche pas toujours. Pendant ce temps, les choses ne sont bien sûr pas comparables. Palmyre est tombée dans les mains sales de la haine. D'autres cités sont tombées, d'autres atrocités. On devrait pendre tous ces fanatiques religieux par les couilles, laisser les restes aux vautours. Pendant ce temps, les choses sont à peine comparables. La vision qu'on a des choses se heurte à nos propres limites. Rien n'est ni tout blanc ni tout noir. Nous en savons quelque chose à la lueur de notre propre vie. Chacun le sait, sans doute, le devine tout au moins, mais il est tellement plus facile de tomber dans cette dichotomie du bien et du mal quand l'action la réclame. Chacun le croit, sans doute. Pendant ce temps, les choses ne sont bien sûr pas comparables. Les fantômes vaporeux du ciel fondus sur place dans la lumière ensoleillée du jour, et je les vois de ma fenêtre comme un répit de très courte durée. Pendant ce temps, les choses ne sont bien sûr pas du tout comparables. Je t'embrasse très affectueusement. Et tant qu'on est dans les éditions Gros Texte, juste un tout petit livre, un petit cahier qui a été fait aux éditions du Petit Véhicule et qui est consacré à Yves Artufel. C'est dans la collection Cahiers d'art et de littérature. C'est le chien d'un 116. Et ça lui va bien, ce titre de chien d'un. Ça accompagne bien le portrait chinois d'Yves Artufel. Yves Artufel, donc l'éditeur des éditions Gros Texte, quelqu'un de très possible. Et pour le découvrir, pour découvrir ce que pensent ou ce qu'écrivent ses amis sur lui, une seule adresse, www.lepetitvéhicule.com. Voilà, mais je vous dis à bientôt et je vous souhaite de bonnes lectures.